Bonjour, mon invité aujourd'hui, c'est François Asselineau, le président de l'UPR. Bonjour, monsieur Asselineau.
Bonjour, Yannick Curie, bonjour à tous vos auditeurs.
Merci d'avoir accepté mon invitation, encore une fois. Décidément, la dernière fois, on a eu beaucoup de retours. Hein. Les gens disent, mais il parle bien, François Asselineau, encore une fois, il connaît bien ses sujets. Donc, on avait encore envie de vous entendre, notamment sur l'actualité, décidément. Que se passe-t-il en ce moment dans la tête de notre président de la République qui veut nous préparer un pactage pour partir en guerre ?
Ben écoutez, moi je trouve ça, je suis comme tous les Français, hein, je trouve ça extraordinairement inquiétant, parce qu'il est, il est plus zelensky-esque que Zelensky. Même Zelensky a dit qu'il n'avait pas besoin, il n'avait jamais demandé de troupes sur son sol, de troupes étrangères sur son sol. Les États-Unis ont dit pareil, l'OTAN a dit pareil, l'ONU a dit pareil, il y a même le Vatican et la Chine qui s'y sont mis. Enfin, Macron est en train de faire l'unanimité mondiale contre ses propos. Donc, c'est malheureusement, vous savez, moi je suis de ceux, j'ai même consacré une vidéo entière sur le sujet, je suis de ceux qui considèrent que M. Macron n'a pas toujours tous ses esprits. Je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiques, pour ne pas dire psychiatriques. Je pense que par ailleurs, enfin, il y a énormément de rumeurs qui circulent sur le fait qu'il consommerait des psychotropes. J'avais d'ailleurs proposé, et ça me paraîtrait tout à fait naturel, que de même que maintenant, quand on prend l'avion, vous savez, depuis l'affaire de cet avion de la Germanwings qu'un copilote avait écrasé délibérément dans les montagnes des Alpes de Haute-Provence parce qu'il était sous antidépresseurs, désormais, dans toutes les compagnies aériennes, il y a des contrôles inopinés des pilotes et des copilotes pour savoir s'ils ont consommé des puissances psychotropes. Ben moi, je pense qu'il faudrait que ce soit la même chose pour tous les chefs d'État et de gouvernement. Et d'ailleurs, je ne vise pas seulement Macron. On a des exemples. Vous savez qu'il y avait Liz Truss, cette ancienne première ministre britannique, qui n'est restée que quelques semaines. On a découvert après coup qu'il y avait des traces de cocaïne dans les résidences officielles du premier ministre britannique. On a vu qu'on a trouvé aussi des traces de cocaïne à la Maison Blanche. Enfin, il y a quand même un vrai problème. Et je considère personnellement que quelqu'un qui a le code nucléaire devrait faire l'objet de la même façon que qu'on est rassuré de monter dans un avion en sachant que les pilotes ont subi des contrôles à la fois d'alcoolémie et de consommation ou non de drogue. Et bien, on devrait avoir la même chose pour le président. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez vu que Monsieur Macron a reçu les présidents des partis représentés à l'Assemblée nationale, hein, donc c'est déjà limité. Évidemment, je n'y étais pas invité. Tout le monde est sorti de là, si j'ai bien compris, un petit peu inquiet, pour ne pas dire un peu effaré de ce qu'ils avaient entendu, avec le président Macron qui a dit qu'il n'y avait plus de lignes rouges, que tout était désormais possible. Alors, ça a été relevé aussitôt par les Russes. Le porte-parole du Kremlin, M. Dimitri Peskov, a répliqué qu'il y avait une escalade provoquée par la France, et vraiment par la France. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que les Allemands, par exemple. Tous ceux qui nous chantent le couple franco-allemand à longueur de journée depuis 60 ans doivent se poser des questions. Les Allemands sont quand même à tout prendre plus raisonnables, pour ne pas parler des autres pays de l'Union européenne. Alors, voilà, les Russes ont fait savoir. Il y a même eu une émission de télévision hier soir là, sur l'une des plus grandes chaînes de télévision russe, où le grand jeu c'était de savoir quelle serait la première ville française qui serait rasée, quoi. Voilà. Mais... Hein.
Ça, c'est donc mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans de la communication, puisque on sait très bien que maintenant on peut rien faire. Voilà, Emmanuel Macron va pas dire je vais envoyer l'armée française sur le.
Écoutez, la communication. Pourquoi? Moi, je suis inquiet parce que je pense que Macron, il est capable de faire beaucoup de choses. Enfin, il est d'une violence, on l'a vu avec les gilets jaunes. Il a éborgné des dizaines de personnes. Il réplique, il répond systématiquement par la violence. Et puis, on a l'impression qu'il a l'impression qu'il y a une conception, comment dirais-je, auto-centrée de tous les problèmes, et notamment les problèmes internationaux. Voilà. Lorsqu'il y a une rebuffade, il prend ça comme si c'était un désaveu personnel de sa personne, etc., etc. Donc, il personnalise tout d'une façon qui est inquiétante. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je vois les déclarations de M. Bardella, de M. Ciotti, de M. Manuel Bompard pour LFI, etc. Les gens sortent de là très très inquiets en disant c'est... Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour lancer la procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution ? Non, on a un article qui prévoit que l'on peut destituer le président de la République en cas de manquement grave à ses obligations. Alors c'est très très vague comme formulation, mais bien sûr il y a des gens qui disent ça n'aboutira pas. D'accord, mais rien n'aboutit jamais. Enfin, les motions de censure, le LFI ou le RN en ont déposé 23 sous le gouvernement de Madame Borne. Il n'y en a pas une qui a abouti. C'est pas pour autant qu'ils n'en ont pas déposé. Le problème, c'est que si les oppositions, il faut 58 députés pour lancer la procédure de destitution. Ils en ont largement. Rien que le RN a 88 députés. Donc, si les oppositions et notamment ceux qui sont très inquiets sur ce risque de guerre, que Macron, on a l'impression qu'il prend un malin plaisir à jouer l'escalade, si les oppositions étaient conséquentes, elles lanceraient la procédure de destitution, qui, même si effectivement il y avait ensuite toute une série de filtres qui feraient que probablement ça n'aboutirait pas, il n'en demeure pas moins qu'au niveau national, comme au niveau européen, comme au niveau international, l'ensemble de la planète se rendrait compte que la représentation nationale des Français n'est pas d'accord avec les propos va-t-en-guerre du docteur Folamour que nous avons à l'Élysée. Tandis que là, ils protestent vraiment et puis ils ne font rien. Donc, en fait, qui ne dit mot, consent. Voilà.
Oui, mais alors, François Asselineau, est-ce que vous ne surestimez pas le degré d'information et de connaissance de nos concitoyens? Car je crois, je le dis avec une certaine prudence, hein, c'est un échange que nous avons. Je crois que si on faisait un sondage aujourd'hui sur cette proposition de Emmanuel Macron, faut-il aider l'Ukraine jusqu'à envoyer des hommes ? Bon, certainement, il y aurait peut-être une majorité contre, mais peut-être une faible majorité. On serait peut-être à... Vous avez encore 30 à 40% de personnes qui seraient peut-être convaincues qu'il faut le faire. Quand, si c'est pour aider l'Ukraine et tout faire pour que l'on gagne face à la Russie qui est décrite comme un agresseur et quelqu'un de très méchant qui se lève chaque matin en mangeant des petits-enfants au petit déjeuner, vous avez quand même, je pense, 60% de personnes qui le croient. Il y a une sous-information et c'est délicat aussi.
Oui, mais vous posez alors une question qui est beaucoup plus vaste, en fait. C'est à quoi ça sert de faire de la politique, voilà. Est-ce que la politique consiste à courir après le dernier sondage d'opinion, sorti par des instituts de sondage qui d'ailleurs font des sondages bidons, et auprès d'une opinion qui est elle-même complètement désinformée? Parce que effectivement, si on a, je suis persuadé que dans les 2-3 mois suivant l'intervention militaire russe en Ukraine, il y avait un tel bombardement de propagande en France qu'il y avait sans doute 70 ou 80% des Français qui approuvaient cette affaire. Maintenant, les choses ont changé, notamment grâce aux réseaux sociaux, notamment grâce à des radios comme la vôtre qui donnent la parole à des gens qui disent autrement, et c'est très important en démocratie d'avoir plusieurs sons de cloche, hein, comme disait ma pauvre grand-mère qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Donc il faut qu'il y ait des et puis que les gens se fassent leur opinion. On en est loin, mais si les partis politiques se disent « Oh là là, mais les Français sont pas prêts à ça, donc je ne le fais pas », on a quoi? Eh ben, on a exactement ce qui se passe. Là, je sors un peu du sujet de la Russie, mais par exemple, sur l'affaire de la sortie de l'Union européenne. Moi, j'ai créé un parti politique il y a 17 ans pour sortir la France de l'Union européenne et de l'OTAN. Tout le monde m'a dit, mais vous n'y pensez pas, c'est absolument incroyable, etc. Mais en réalité, tous les événements me donnent raison et nous avons le vent en poupe. Nous avons de plus en plus de gens qui s'intéressent à nos analyses, voire qui adhèrent et qui nous rallient. On a des partis politiques, par exemple le Front National devenu Rassemblement National, qui a complètement laissé tous ses fondamentaux. C'est-à-dire que désormais, ils sont je ne sais pas, je l'ai déjà dit, certains de vos auditeurs vont peut-être trouver ça provocateur, mais je le maintiens. Je ne vois pas quelle est la différence, je vous le disais, je crois déjà dans l'entretien précédent, la différence qu'il y a lien entre M. Bardella, M. Ciotti, M. Attal, M. Macron. Je ne vois pas. En fait, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Ils sont tous pour l'Europe, pour l'Union européenne, pour l'euro, pour l'OTAN, pour l'Ukraine, contre la Russie. Le RN a voté massivement pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ce que je considère personnellement tout à fait anormal, parce qu'on n'a pas inscrit dans une Constitution qui est un texte chargé de régler les rapports entre les différents pouvoirs à l'intérieur d'un État. On n'a pas à mettre des décisions politiques qu'une majorité peut adopter et qu'une autre pourrait changer. On est en train de défigurer la Constitution française en y ajoutant des tas de trucs, l'interdiction de la peine de mort.
Mais vous réagissez, cher François Asselineau, comme si les hommes politiques votaient en fonction de leurs convictions ou d'un destin. En réalité, ils votent en fonction d'une réalité du moment, même si c'est faux, si c'est ce que les gens croient, on ne peut pas aller contre ce que les gens croient, même si c'est...
Eh bien ça, justement, alors je ne suis pas...
C'est le problème, hein.
Oui. Il y avait, vous savez que je ne partage pas du tout très peu des analyses de ce qui était de l'ancien patron du Front National qui était Jean-Marie Le Pen. Nous avons des différences fondamentales, mais il y avait une phrase qu'il avait dite que j'avais trouvée assez rigolote et assez pertinente. Il disait qu'il préférait être battu sur ses idées qu'être élu sur les idées des autres. Ben, maintenant, on a effectivement Madame Le Pen, Monsieur Bardella, tout ce petit monde, Monsieur. Il préfère être battu, il préfère être élu sur les idées générales que ce... Alors nous, on n'est pas, moi, c'est pas mon cas. Moi, je fais de la politique pour de nobles raisons. Je fais de la politique pour expliquer à mes compatriotes ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer est extraordinairement grave. C'est là où il y a un vrai problème, si vous voulez. C'est que on serait en temps normal, on serait, disons, en 1974, 75, etc. C'est-à-dire, enfin, même si il faut pas enjoliver le passé parce qu'il y avait la crise. Mais à l'époque, on n'avait pas le sentiment, comme on a maintenant, que la France est en train d'être détruite. Bon, aujourd'hui, quel que soit le secteur, que ce soit l'industrie, l'agriculture, l'école, l'hôpital, la police, la gendarmerie, la culture, dans tous les domaines de l'activité, le rayonnement international, notre position à l'étranger, etc., on a l'impression que tout est en train d'être détruit, sans parler de l'unité nationale elle-même qui est menacée. Et donc, face à un tel désastre, il faut quand même que des gens se lèvent pour essayer d'expliquer aux Français quel est le problème. Il y a un problème actuellement qui est un peu en mode mineur, mais qui est absolument dramatique, c'est ce qui est en train d'arriver au niveau financier. Vous avez vu que le gouvernement, en fait, est aux abois. Monsieur Le Maire nous a dit qu'il fallait économiser 10 milliards d'euros. Et on ne sait même pas comment les économiser, ces 10 milliards d'euros. Mais au même moment, on apprenait qu'en janvier de cette année, le déficit budgétaire a été de 27 milliards d'euros. Et l'objectif, c'est-à-dire qu'on est parti sur une tendance annuelle de 27 fois 12, ben on n'est pas loin, on est même supérieur à 300 milliards d'euros de déficit budgétaire. Alors que je crois que l'année dernière, ça s'est terminé avec 179 ou 180 milliards d'euros. Donc, ce que vous pouvez bien comprendre, c'est que nos partenaires au sein de la zone euro, à commencer par l'Allemagne et la BCE, maintenant sifflent la fin de partie. Et si vous comprenez mon raisonnement, c'est pas 10 milliards d'euros qu'il va falloir économiser. En fait, c'est 300 milliards d'euros. Mais on n'arrive même pas à faire 10 milliards d'euros d'économie. Donc, on est face à une impasse absolument monstrueuse. J'ai vu que M. Le Maire a dit que l'objectif était de parvenir à l'équilibre budgétaire en 2032. Ça m'a fait rigoler dans le désastre parce que c'est absolument grotesque. Cet homme qui est depuis 7 ans à Bercy, qui a creusé avec Macron les déficits d'une façon inimaginable, on a eu 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, il a le culot de nous dire qu'en 2032, on rasera gratis, quoi. Enfin, franchement, c'est un problème absolument fondamental. Vous voyez d'ailleurs que le gouvernement va s'attaquer désormais aux assurances chômage, aux allocations familiales. C'est d'ailleurs un sondage opportunément sorti hier qui indique que les Français seraient favorables à ça. Mais la résultante de tout ça, je pèse mes mots, c'est que les mois, les années qui viennent risquent d'être un véritable désastre économique, social, financier et puis social. Moi, je ne vois pas, si vous avez des armées de chômeurs qui n'ont plus de prestations chômage, je ne sais pas ce que va devenir la paix publique en France, hein.
François Asselineau est mon invité exceptionnel, le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Et je vous retrouve avec François Asselineau, le président de l'UPR. Et oui, vous avez évoqué même cette vidéo d'alerte de Bruno Le Maire en disant « il y a des milliards qui dorment sur les comptes d'épargne des Français, ce n'est pas normal, il faut que cette épargne serve à la transition écologique, il faut que cette épargne serve à l'intelligence artificielle. Pendant ce temps, on nous fait les économies, vous dites qu'on va se retrouver avec peut-être des bataillons et une armée de millions de chômeurs avec des indemnités quasi réduites, quasi nulle, donc fortement réduite. Il y a armée dans tout ça, mais bon, on n'a pas le sentiment qu'il y a un réveil de la part de nos concitoyens, François Asselineau. Tant que le frigo, en fait, est plein et tant que vous avez du monde chez Leclerc ou chez Auchan ou chez Carrefour le samedi après-midi, on peut lancer tous les cris d'alarme qu'il peut y avoir, mais la retraite tombe et la paye tombe.
Vous avez raison, les Français sont un peu sous hypnose. En particulier, il y a vraiment deux catégories de Français maintenant. Il y a ceux qui regardent les grands médias, les médias mainstream, comme on dit, donc TF1, France 2, BFM, CNews, LCI. Donc eux, ils ont une vision des choses, qui est la vision qu'on veut nous imposer. Et même CNews, je me permets de le dire, puisque CNews qui prend la pose de la chaîne de télévision de liberté d'expression, ça fait quand même 2 ans qu'ils ne m'ont pas accordé une seconde d'interview. Hein, donc vous êtes beaucoup plus ouvert à la liberté d'expression que CNews à mon égard, puisque pour parler sur CNews, alors ça oui, il faut taper sur les Arabes et sur les Noirs et sur les immigrés et sur l'islam. Donc ça, vous avez la carte blanche. Mais quand vous commencez à expliquer que l'Union européenne nous entraîne à la guerre avec l'OTAN, que l'euro nous entraîne à un désastre financier, parce que c'est la conclusion de ce que je disais précédemment. Si nous avons, vous savez, il y a des gens qui me disent, est-ce que vous vous rendez compte si on sort de l'euro, ce qui se passera? Et moi, je réponds aux gens qui me disent ça, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Parce que si la France, mais aussi la Grèce, l'Italie, etc., sont plongés dans des déficits abyssaux, c'est justement, pour des raisons que j'ai pas le temps ici d'expliquer, c'est justement parce que nous avons une monnaie qui est l'euro et qui est trop cher par rapport à la compétitivité intrinsèque de notre économie, puisqu'elle intègre le florin néerlandais ou le Deutsche Mark.
On ne peut pas mettre dans le même panier, et ça, tout le monde, c'est du bon sens. Une monnaie, c'est le reflet, finalement, c'est la photographie de l'industrie d'un pays, de son économie. Voilà. Et on ne peut pas mettre l'huile d'olive grecque avec les usines allemandes dans le même panier.
Voilà, voilà.
C'est logique.
Vous avez tout. Ben, vous avez écouté. Vous avez le sens de la formule et de la concision, c'est effectivement le bon sens. D'ailleurs, vous savez, parmi les gens qui suivent l'UPR, qui nous suivent, on a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément des gros diplômes, hein, mais qui ont du bon sens. Parce que il y a les gens qui sont les cadres supérieurs, par exemple, eux, ils sont tellement habitués, si vous voulez, à vivre dans un univers où tout le monde doit dire la même chose, tout le monde doit répéter la doxa, qu'ils finissent par fermer leurs yeux et leurs oreilles. Pas toujours, hein. Mais il y a un véritable problème de cette nature. Alors que quand vous allez voir des gens qui sont des artisans, des petits commerçants, des retraités, des gens comme ça, mais il y en a de plus en plus qui comprennent que ça va plus du tout, qu'on peut pas continuer à donner des dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine alors même qu'on est dans la situation financière que je décrivais tout à l'heure. Les gens ont du bon sens quand même. Voilà. Et c'est, alors vous avez raison, pour l'instant on a l'impression que la population ne bouge pas trop. Mais n'oubliez pas que l'histoire de France, c'est un pays où d'un seul coup, il peut y avoir des bouffées, des bourrasques révolutionnaires. Et là, tant que les frigos sont pleins, comme vous le dites, vous avez raison. Mais si, comme semble-t-il, M. Attal veut le faire maintenant, M. Attal qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, qui vit dans un milieu extrêmement favorisé, qui, si j'ai bien compris, à 34 ans, il a déjà un patrimoine qui est de l'ordre d'1 500 000 euros, d'après ce qu'il a déclaré lui-même. Donc il ne sait pas ce que c'est que la vie des gens, du français moyen qui a du mal à finir ses fins de mois à partir du 20 du mois, et ceci ne fait que s'aggraver. Donc, effectivement, on est pour l'instant dans une espèce d'œil du cyclone, je trouve, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de calme un peu suspect, mais qui peut demain se déboucher sur des violences. On l'a vu à plusieurs reprises d'ailleurs. Et simplement, là, si on a plus ce qu'on appelait jadis les amortisseurs sociaux, c'est-à-dire toutes ces prestations qui permettaient de calmer la colère des gens, ben, moi, je suis inquiet quant à l'évolution de la paix civile en France.
Alors vous dites que M. Attal a ce patrimoine important. Maintenant, il peut être aussi conscient de la réalité des gens. Vous avez des gens qui sont pauvres et qui sont abrutis et qui ne seront pas capables de comprendre comment un petit patron ou un petit commerçant gagne sa vie. Quelqu'un de très riche, ouvert sur les problèmes du peuple et puis vice-versa. Enfin, tout.
C'est vrai, vous avez raison, il ne faut pas caricaturer, mais il n'en demeure pas moins.
Si vous entendez par exemple M. Trump, il est milliardaire, hein, Monsieur Donald Trump. Moi, j'ai entendu des discours où il sait ce que c'est que la vie des petites gens et de la fin du mois.
Oui, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas sûr, néanmoins, que ce soit le cas de M. Attal, mais c'est le cas de Trump, en effet. Mais fondamentalement, il n'y a pas non plus le même positionnement politique et la même voie d'accession au pouvoir. Donald Trump, il est arrivé au pouvoir, et d'ailleurs, il va peut-être y revenir, parce que vous avez vu que c'est désormais, de façon certaine, le candidat républicain aux élections de novembre. Monsieur Trump est arrivé au pouvoir contre l'oligarchie. Voilà, il l'a fait à la fois parce qu'il avait lui-même une fortune personnelle considérable, qui lui a permis d'avoir des moyens audiovisuels pour se faire connaître, et à la fois parce que c'est un homme qui a quand même, excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais une certaine trempe, qui a quand même une personnalité hors du commun pour résister notamment au déluge d'agression qu'il a subi de la part de tous les tenants de l'oligarchie. Tandis que M. Attal, c'est le pur produit de l'oligarchie, il fait partie de ces gens et qui ont été sélectionnés par le World Global Leader, par Davos. Et voilà, donc c'est le même profil, je vous ai dit, que Bardella, que Édouard Philippe, que Macron. Ce sont des gens qui sont lisses comme ça, qui présentent bien, qui sont de plus en plus jeunes, ce qui assure l'oligarchie d'avoir des gens sans aucune compétences réelles, sans aucune expérience, et puis ne font que répéter la doxa dominante. Donc M. Attal, il est là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé Premier ministre? En fait, il a fait de la communication, c'est tout. Et puis maintenant, il est obligé d'appliquer les instructions venues de la Banque Centrale Européenne et venues de Bruxelles, les grandes orientations des politiques économiques. On est dans une situation bloquée. On est dans une situation de blocage complet, avec en plus agrémenté par une crise financière énorme, agrémenté par une crise politique, diplomatique et militaire considérable, et agrémenté par le fait que le soutien populaire à tout ça est en fait extrêmement ténu. Il n'y a pas de soutien populaire à Macron ni à Attal pour mener ces politiques qui en fait sont décidées ailleurs et par d'autres.
Oui, mais les gens sont dans l'instantanéité, n'ont pas de recul. Par exemple, j'ai récemment écouté un journaliste de LCI interroger M. Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, en lui disant que Poutine devait être arrêté, est-ce qu'il serait arrêté s'il sortait des frontières de la Russie parce qu'il y a eu cette guerre contre l'Ukraine, contre le droit international et l'ONU. J'ai pas entendu cette question. On le rappelle que George Bush a eu la moindre poursuite pour avoir fait la même chose avec l'Irak.
Oui, et puis c'est pas du tout dans le même contexte d'ailleurs, parce que s'agissant de George Bush, c'était une guerre de pure agression, alors que s'agissant de la Russie...
C'est une guerre de défense, mais alors si vous allez expliquer ça encore, alors là on s'en sortira plus.
Oui, mais vous voyez, moi je ne désespère jamais de la nature humaine et de la possibilité des gens de comprendre quand on leur explique. Voilà, ce qui fait... Pourquoi les vidéos que je fais sur Internet ont tellement de centaines de milliers de vues, voire parfois plus d'un million? C'est parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont à la recherche d'une information stéréoscopique.
Oui, c'est le haut du panier.
Comme je le dis.
C'est le haut du panier.
Pas forcément, non, je ne suis pas d'accord.
Je ne parlais pas du haut du panier financier, je parlais intellectuel.
Oui, il y a des gens qui, quel que soit leur milieu, s'intéressent aux choses, voilà. Je suis d'accord.
Pas social, ce que je dis.
Ben, les gens qui vous écoutent, par exemple, je pense que ce sont des gens
ceux qui, ont
qui s'intéressent.
Appelé, voilà, ceux qui sont restés, là, je comprends ça. Ceux qui s'intéressent. Dernière question pour les européennes.
Oui.
Où en êtes-vous, François Asselineau?
Eh bien, écoutez, nous sommes. D'une part,
Ah
notre
oui, j'ai une
liste est.
question. Pardonnez-moi, parce que sinon je vais oublier, la dernière fois vous étiez passé. Une liste d'unions, parce que les gens me disent, bon, François Asselineau est bien, mais il y a aussi Florian Philippot qui est un peu sur la... Quand est-ce que toutes ces personnalités vont s'entendre? Voilà, je relais cette question.
Oui, mais ça, vous savez, c'est les troubles de Monsieur Philippot qui sont aux abois parce qu'il voit bien que nous avons beaucoup plus de militants, d'adhérents, que les vidéos que je fais sont un triomphe. Donc, effectivement, Monsieur Philippot qui a essayé de nous tuer, puisque c'est de ça qu'il s'agit. En 2017, 10 ans après que j'avais créé l'UPR, il aurait dû nous rallier l'UPR, il aurait dû venir chez nous, puisqu'il était chassé du FN. Au lieu de ça, il a créé son propre parti. Donc, le diviseur de départ, c'est lui. C'est pas nous, c'est comme si Monsieur Zemmour reprochait à Madame Le Pen d'avoir divisé le camp de la droite de la droite. Bon, non, le premier diviseur, c'est Zemmour, c'est pas Madame Le Pen. Donc là, c'est de la même façon. Mais au-delà de ça, il y a un vrai problème qui se pose, c'est que d'abord, il y a deux problèmes. C'est que Monsieur Philippot fait croire à ses troupes que j'aurais un ego démesuré, que je voudrais pas si non. C'est pas moi qui décide, hein, c'est le bureau politique de l'UPR qui décide. Lorsque Monsieur Philippot avait voulu faire une alliance en 2019 aux élections européennes, il était d'abord allé voir Monsieur Dupont-Aignan pour lui proposer 400 000 euros pour être numéro 3. Monsieur Dupont-Aignan l'avait éconduit. Ensuite, il était venu nous voir pour être numéro 3 sur notre liste et nous avait proposé 300 000 euros. C'était un peu moins cher que pour Dupont-Aignan. Ben, on a
C'est
mis
une
ça en
cote comme chez Sotheby's, hein,
Oui, oui,
cette
oui.
histoire.
Donc moi, je n'ai pas décidé par moi-même. Moi, j'ai saisi le bureau politique, on en a débattu. Et à l'unanimité, moins deux abstentions, le bureau politique a décidé que non. D'abord parce que nous avions des gens qui étaient sur notre liste, qui étaient des militants émérites, qui depuis des années travaillaient, et qui étaient en place numéro 3 et numéro 5. Donc, ce sont les places éligibles. Et donc, qui auraient été finalement déclassés par rapport à quelqu'un comme Monsieur Philippot, qui avait passé son temps à essayer de nous détruire. Donc, déjà, il y a un problème humain à régler derrière. Mais il y a un problème beaucoup plus fondamental. C'est le point numéro 2. C'est que Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Philippot, sont à la fois pour le Frexit, enfin, Monsieur Dupont-Aignan, non. Monsieur Dupont-Aignan ne veut jamais sortir de l'Union européenne. Maintenant, il propose sortir de la Commission. Enfin, c'est bon. Bref, il veut une autre Europe. Monsieur du Philippot, effectivement, dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, mais veut faire alliance avec Monsieur Dupont-Aignan. Il s'est rallié tout de suite à son projet d'union des droites. Je n'ai pas rêvé. Monsieur Dupont-Aignan passe son temps à dire qu'il faut faire une alliance avec Madame Le Pen. Il l'a d'ailleurs fait en 2017, pour ensuite d'ailleurs se dédire, avec Monsieur Zemmour, avec Monsieur Ciotti. J'ai pas rêvé. Enfin, tout le monde le sait. Et Monsieur Philippot veut faire alliance avec ça. Or, ce que nous disons, nous, c'est que l'expérience que nous avons, aussi bien en France qu'à l'étranger, c'est que pour arriver à nos fins, c'est-à-dire à la libération nationale, c'était d'ailleurs déjà vrai en 43-44, il faut avoir des gens de tous les bords, de droite comme de gauche. Parce que dans chaque camp, que ce soit à droite ou à gauche, vous avez des gens qui sont pour l'indépendance nationale et d'autres qui sont pour la soumission, en fait, à l'empire qui nous domine, c'est-à-dire actuellement l'empire euro-atlantiste. Voilà. Et l'expérience que nous avons, c'est que regardez ce qui s'est passé en 2005, lors du référendum où le non a triomphé, les 55%, il y avait 30% à peu près qui venaient de gauche et 25% qui venaient de droite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les européistes ne veulent plus faire de référendum, parce qu'ils savent que c'est le seul type d'élection où ceux qui veulent dominer la France et en fait nous voler notre indépendance, notre souveraineté, ils y sont d'ailleurs parvenus, ils sont en train de nous imposer des politiques de régression sociale, de destruction de nos services publics, de pillage en fait de notre patrimoine, eh bien ceux-là qui tiennent ils ont un intérêt vital à maintenir le clivage droite-gauche qui n'est plus opérant en ce moment. Ils ne veulent surtout pas qu'il y ait une alliance qui se passe au-dessus du clivage droite-gauche. Donc ce qui est vraiment fondamental, c'est que nous, et depuis que j'ai créé l'UPR, on a créé un mouvement de rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche, de type provisoire, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas des familles politiques qui continuent d'exister, mais nous sommes dans une situation où nous sommes arrivés à de telles extrémités qu'il nous faut essayer de rassembler au-dessus de ce clivage droite-gauche. À partir du moment où vous n'êtes pas là-dedans, que vous êtes sur, par exemple, l'union des droites, vous vous mettez dans une union avec des gens qui sont, vous serez minorisés. C'est exactement, regardez, c'est le problème qui se passe en ce moment aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, vous avez M. Geert Wilders qui a remporté dans une coalition, qui a remporté des élections. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois, il n'arrive pas à former un gouvernement. Il a remporté les élections en faisant alliance. Lui, il avait dans son programme un référendum sur la sortie de l'Union européenne, ce qu'ils appellent le Nexit, pour Netherlands Exit. Et il a fait une alliance avec des gens de droite qui, eux, sont pro-européens. Ils ont obtenu la majorité, mais quelle a été la première annonce qu'il a faite dès le lendemain même? Eh bien, qu'il ne fera pas le référendum parce que ses partenaires ne sont pas d'accord. Voilà. C'est ça le truc, si vous voulez. Donc, nous ne voulons pas d'union des droites. Nous ne voulons pas d'union des gauches non plus. Nous voulons l'union de tous les Français, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui ont compris que, à titre provisoire, pendant quelques années, comme c'était le cas en 43-44 avec le Conseil national de la Résistance, il faut mettre de côté ce qui nous sépare pour nous focaliser sur ce qui nous réunit. Or, ce qui nous réunit doit être non pas des politiques de droite ou des politiques de gauche, puisque de toute façon, ces politiques sont actuellement imposées par l'Union européenne. Ce qui doit nous réunir, c'est d'abord et avant tout reprendre notre liberté et notre souveraineté nationale. C'est ça le point le plus fondamental.
Et ben voilà, c'est un peu le programme de l'UPR. Merci François Asselineau.
Merci de m'avoir reçu.
D'avoir accepté mon invitation. Et c'est quand vous voulez. Voilà, merci Monsieur Asselineau. Le président de l'UPR était mon invité.